Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Low-tech lab. Vous avez peut-être déjà entendu ces trois syllabes. Ces trois syllabes, ce sont surtout des lieux où on fabrique des objets utiles, simples, avec le moins de moyens et d'énergie possible. Le Low-Tech Lab de Concarneau a été pionnier à l'échelle de la France. Son équipe a expérimenté un voilier low-tech et même une mini-maison low-tech il y a quelques années. Cette fois, nous sommes dans un hangar au Low-Tech Lab de Brest, au 13 rue Maupertuis, avec Martin Amis, l'un des animateurs et fondateurs de l'association.
On a un espace à peu près de 50 mètres carrés qui sert d'atelier pour les adhérents de l'association et puis pour organiser aussi des formations grand public pour que n'importe qui puisse apprendre à fabriquer soi-même son déshydrateur solaire, sa marmite norvégienne, pourquoi pas sa lampe solaire, etc. Et puis ça nous sert aussi de lieu pour prototyper, donc pour essayer soit de reproduire des tutoriels, d'apprendre à reproduire nous-mêmes les low-tech, soit à chercher à en concevoir de nouvelles ou d'améliorer ce qu'on peut trouver sur Internet.
Qu'est-ce qu'il y a comme matériel sous nos yeux ?
Déjà, il y a les établis qui ont été fabriqués par un adhérent de l'association avec du bois de récupération. Donc c'est déjà ça, rien que les choses qui vont nous servir pour faire du travail du bois ou autre ont été fabriquées ici. Et sinon, après, ce qu'on va trouver, c'est qu'on a le four solaire qui a été fabriqué par un groupe d'adhérents dans l'association. Et puis l'idée, c'était de l'adapter aux matériaux que nous, on trouvait dans le coin. Et puis après, on a essayé de rajouter des ardoises, etc., pour faire peut-être office de corps chaud.
Ah oui.
Bon, l'idée, c'est de tester ça et de voir si ça marche vraiment, en fait.
Oui, parce qu'un four solaire, en gros, c'est une boîte avec quand même une paroi en verre. Voilà, forcément.
L'idée, c'est de faire effet de serre avec la paroi en verre, en fait. De faire en sorte que sous la paroi en verre, la chaleur s'accumule. Et puis la boîte en elle-même est isolée pour éviter une fois de plus que la chaleur s'en aille. Et donc l'idée, on place un plat qu'on va faire mijoter, par exemple, au centre du four solaire. Et puis la température peut monter jusqu'à 120-130 degrés, par exemple.
Alors, il y a les panneaux en plus, en extérieur.
Alors les panneaux, l'idée, c'est d'essayer de réverbérer un maximum de rayons du soleil vers l'intérieur de la boîte. Donc on peut les orienter en fonction de l'inclinaison du soleil, en fonction d'où on habite et puis de la période de l'année.
Alors, il y a des fours solaires à l'intérieur, il y a aussi du film réverbérant, mais là, ce n'est pas le choix que vous avez fait.
Non, en fait, on s'est dit qu'il y avait peu d'intérêt, on s'est dit que ça renvoyait sûrement une partie en dehors du four solaire. Donc on a essayé plutôt de mettre des corps noirs qui vont absorber la chaleur. On n'est pas forcément hyper convaincu que ça marche, mais l'idée, c'est d'essayer, en fait.
Voilà, vous percevez déjà ce que peut être la low-tech concrètement.
La low-tech, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un ensemble d'outils, d'objets ou même de services qui vont répondre à des besoins essentiels. Donc par besoins essentiels, on entend se déplacer, se nourrir, se loger, se pourvoir en énergie, s'approvisionner en eau, en nourriture, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des besoins essentiels. Et l'idée, c'est de concevoir des systèmes qui soient les plus simples et les plus accessibles possibles pour que n'importe qui, ou en tout cas un quartier ou une communauté, puisse reproduire lui-même l'objet ou l'outil qui va servir à son besoin. Et puis, il y a la notion aussi de partager derrière les informations. Et donc, forcément, il faut que les tutoriels qu'on crée, ils soient aussi accessibles. Donc si une technologie qu'on produit, elle est trop complexe, ça va être difficile de la partager facilement et il y a moins de gens qui vont pouvoir se l'approprier derrière. Donc ça, c'est vraiment la notion d'accessibilité, de simplicité. Et puis après, le troisième critère qui est inhérent à la démarche low-tech, c'est la durabilité. Donc là, l'idée, c'est de s'appuyer un maximum sur des ressources locales. Si c'est des ressources qui ne peuvent pas être locales, dans ce cas, ça va peut-être être plutôt de la deuxième main ou du réemploi. Ou alors même transformer ce qu'on peut considérer comme des déchets, comme des ressources en fait. Donc typiquement, les piles au lithium, on en trouve à foison.
Qui marche encore.
Qui marche encore. Après, il y a le lithium, c'est intéressant parce qu'il y a aussi des notions de sécurité à avoir. Et c'est ce qu'on apprend nous-mêmes, par exemple, en apprenant à démonter des piles, etc. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, au niveau de l'assaut, on s'approprie nous-mêmes les connaissances low-tech qui ont pu être partagées par Concarneau ou tout un tas d'autres low-tech labs ou tout un tas d'autres structures dans le monde, qui répondent une fois de plus aux besoins essentiels. Et une fois qu'on s'approprie ça au niveau de l'association, dans un deuxième temps, l'idée, c'est de le diffuser en local.
vous auriez une traduction en français du mot low-tech ?
La low-tech, en fait, si on la traduit tout simplement, c'est ce qu'on va dire, ce sont des basses technologies. Mais le terme en lui-même ne résume pas la démarche dans sa globalité. C'est-à-dire que la démarche, elle ne s'arrête pas que à l'objet. La démarche, elle va beaucoup plus loin qu'un objet, on va dire, basse technologique. En fait, l'idée, c'est d'avoir un esprit critique, même sur ce qu'on produit, les services qu'on propose à l'échelle de la société haute, et ce, dans n'importe quel domaine. Donc, si on prend, par exemple, le domaine de la recherche scientifique, il y a des systèmes qui vont être un peu obligés d'être conçus de façon très technologique. Mais maintenant, si ça permet d'augmenter les connaissances sur un sujet donné, c'est à nous de nous poser la question de l'utilité de développer ce genre d'instrument. Et après, si l'instrument lui-même, on ne peut pas le remettre en question, ou l'outil de mesure, ben on peut repenser tout le reste. Donc là, on va repenser au cycle de vie du produit, qu'est-ce qu'on en fait à la conception, à la fin de vie ou seconde vie. Comment le livre à un endroit donné, est-ce qu'il ne peut pas être fabriqué sur place? C'est tout ça, en fait, la démarche low-tech. Donc ça ne se résume pas juste au terme basse technologie. Ouais.
Continuons l'exploration des objets qui parsèment le low-tech lab de Prest.
Un petit rocket stove.
Alors c'est quoi?
Un rocket stove, l'idée, c'est de pouvoir cuire des aliments, donc à partir de chutes de bois, ça peut même être de la paille ou ce genre de choses, des choses qui peuvent brûler très vite ou qu'on peut récupérer sous forme de déchets, donc ouais, des chutes de bois. Et l'idée, en fait, c'est de reproduire une légère différence de pression entre le haut du rocket stove et le bas pour créer un petit phénomène d'aspiration d'air. Et l'idée, c'est que ça brûle le bois de façon plus propre qu'un poêle traditionnel. C'est-à-dire que l'effet rocket, en fait, il va vraiment concentrer la chaleur au niveau de la cheminée du rocket stove. Et du coup, ça va brûler en grande partie les fumées, quoi.
Ouais. Il y a moins de pertes, en fait, c'est ça?
En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on met du bois de mauvaise qualité, ça peut quand même suffire pour cuire, quoi. Tellement ça optimise la combustion du bois. En fait, il y a une surface. On peut mettre soit un isolant entre la cheminée et puis la partie extérieure. Donc ici, il faut se l'imaginer qu'on l'a fabriqué avec des boîtes de conserve. C'est en se basant sur un tutoriel du low-tech lab de Grenoble, notamment.
C'est pas très grand, hein. C'est quand même des boîtes de conserve de quoi? De diamètre 15
cm. Alors ça, c'est des 4 kg, ouais. C'est des boîtes de conserve de 4 kg qu'on a trouvées dans les pizzerias. Et puis après, ça, c'est des boîtes de conserve de diamètre inférieur qu'on trouve nous-mêmes quand on achète à manger ou autre, quoi.
Et rien d'autre, hein, du scotch et puis c'est tout. Enfin, de la toile américaine.
Et après, il faut juste un petit fil de fer, quoi. Et puis là, en outil, il faut une tenaille pour pouvoir créer les espaces pour emboîter les boîtes. Ouais. Et après, nous, on n'a pas vraiment mis un isolant, on a juste mis de la terre, qui n'est pas un isolant, mais qui permet déjà de créer une sorte d'inertie thermique, en fait.
Et celui-là, apparemment, il a servi. Hein.
Ah oui, bah, il sert, ouais. On a déjà fait du café, des pâtes. Ouais, non, ça marche, il n'y a pas de souci. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, c'est typiquement une low-tech qui est fait un peu de briquet de broc, quoi. Mais en fait, ça marche super bien, malgré le fait que ça ne soit pas forcément très optimisé ou autre, quoi. Donc là, on est sur un déshydrateur solaire qui est fabriqué par l'association INTI, Bolivia INTI. Et du coup, en fait, on a été formé, c'était pendant le festival low-tech à Concarneau en juin dernier d'ailleurs, à apprendre à fabriquer des déshydrateurs solaires et puis nous-mêmes proposer des formations pour apprendre à d'autres gens à en fabriquer.
Ça sert à quoi un déshydrateur?
Alors l'intérêt du déshydrateur, c'est de pouvoir déshydrater tout ce qui est fruits et légumes en dessous de 50 degrés pour conserver tout ce qui est vitamines, donc notamment la vitamine C ou autre. Ça paraît assez compliqué comme ça, mais le fonctionnement est assez simple. On est un peu comme le four solaire, une vitre qui va faire office d'effet de serre. On a rajouté du simili-cuir noir et il est posé de façon alvéolée pour capter un maximum de chaleur par rayonnement du soleil. Et en fait, on a deux entrées qui sont en bas du déshydrateur et par une convection naturelle, le fait que ça chauffe derrière la vitre en verre, il y a l'air froid qui va rentrer à l'intérieur, qui va chauffer, qui va passer dans les ouvertures qu'il y a en haut. Et puis en fait, ensuite, ça va descendre derrière au niveau des clayettes sur lesquelles on va mettre tout ce qui est fruits et légumes.
Ah oui, il y a plusieurs états là.
Ouais, c'est ça. On a à peu près un mètre carré de surface là.
Donc on peut déjà tous les champignons qu'on a accueillis last automne, on peut les faire sécher là.
Ouais, c'est ça. Donc c'est, en fait, l'idée, c'est de travailler sur d'autres moyens de conserver les aliments plutôt que de conserver au frigo ou avec des systèmes qui consomment de l'énergie. Et là, ça va fonctionner de façon passive.
Et les vitamines sont préservées.
Voilà, c'est ça. En fait, on a le modèle de Bolivia INTI. Il rajoute une sonde de température avec un petit thermomètre qui bip si jamais on dépasse, par exemple, 50 degrés. Donc ça permet après de jouer un peu sur l'orientation du déshydrateur pour éviter que ça chauffe trop, quoi. Et ça, nous, on l'a testé avec des bananes, des pommes, des fruits divers et variés, et puis ça marche très bien, quoi. Donc par exemple, pour tout ce qui est pommes-bananes, il faut compter 48 heures de déshydratation. Et pour la nuit, on a rajouté en plus un petit système avec un ventilateur d'ordinateur et un port USB pour pouvoir brancher une batterie externe. Comme ça, la nuit, on continue d'avoir une circulation d'air pour éviter que l'humidité ne stagne. Ça améliore un petit peu la déshydratation. Ça évite en tout cas que ça puisse moisir la nuit, par exemple.
Donc vous récupérez comme ça les plants en général, vous les récupérez comment
Bah alors par exemple, pour le déshydrateur solaire, c'est un livre qui a été rédigé par les deux concepteurs du déshydrateur. Et à l'intérieur, il y a tous les plants. Donc soit on est capable de le faire en autoconstruction, soit on participe aux formations qui peuvent être organisées typiquement par ce genre d'association, ou comme nous, on espère le proposer en 2024 par exemple. Et donc là, ça nous a pris 2 jours à fabriquer. Il faut rajouter par contre une bonne journée de préparation parce qu'il y a toutes les planches à découper, il y a un petit peu de travail de préparation, quoi. Bah, tout ce qui est matériaux, ça va être typiquement pour les ateliers, c'est quand même plus simple d'acheter. En fait, le mieux, c'est d'aller en ressourcerie, comme Brest, la réserve des matériaux, ou au Repair à Morlaix, par exemple, qui fait office de ressourcerie. Il y a aussi un atelier partagé, etc. Donc, soit on arrive à trouver des matériaux de deuxième main, ce qui est plutôt cohérent avec la démarche low-tech, soit sinon, on peut acheter dans les magasins de bricolage pour avoir quelque chose quand même un peu de propre, etc. Pour tout ce qui est alimentaire, faut quand même un peu se méfier de... Enfin, on ne sait pas forcément la vie qu'a pu avoir le matériau, donc c'est quand même peut-être mieux d'acheter, quoi.
Ouais, pour pas qu'il soit pollué, vous voulez dire.
Voilà, c'est ça, exactement. Après, ça peut être sous forme de don. En fait, il faut faire l'arbitrage entre le temps qu'on peut consacrer à récupérer les matériaux et sinon le fait d'acheter directement, quoi.
Voilà, les pots que vous avez, c'est pour faire des bokashi.
Exactement, ouais.
C'est quoi?
Oui, c'est vrai que je n'ai pas montré le bokashi. Ouais. Bah, le bokashi, c'est un système pour... composter les aliments de façon, enfin les déchets pardon alimentaires de façon anaérobique, donc sans oxygène. Et l'idée en fait, c'est que ça dégrade les aliments sous forme de jus, un peu comme le lombricompost, sauf qu'on peut mettre plus de choses que dans un lombricompost. Et le jus qui est produit, c'est un engrais qui est surpuissant.
Il ne faut pas l'ouvrir du tout alors pendant que ça se dégrade
ou... Non, l'idée c'est de le laisser fermer pour que parce que ce sont des bactéries qui consomment plutôt du CO2 plutôt que de l'oxygène. Et donc il faut le laisser fermer pour que la réaction de décomposition, enfin de compost, pardon, se fasse.
Donc il faut en avoir plusieurs chez soi.
En fait, ça fait presque de la lactofermentation. Mmh. Bah, en fait, l'idéal, ça serait d'en avoir 2. C'est-à-dire que quand il y en a un qui a déjà bien commencé et qui est plus ou moins plein, on va commencer à remplir l'autre pour que le premier se termine, par exemple.
On peut quand même remplir au fur et à mesure, mais la fermentation ne commencera qu'une fois qu'il sera fermé, c'est ça?
Non, en fait, la fermentation, elle commence tout de suite. Il faut apporter ce qu'on appelle des organismes efficaces. Et en fait, c'est ces organismes efficaces. Alors, on peut soit les produire soi-même, soit ça peut se trouver sur Internet. Et ceux qui vont démarrer la réaction de décomposition des déchets alimentaires. Et après, on peut l'ouvrir, mettre les aliments et le refermer. Il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, le processus est quand même relativement lent. Donc, l'apport d'oxygène qu'il va y avoir en l'ouvrant, c'est pas gênant. Et donc là, nous, on le fait avec des seaux qu'on récupère à droite à gauche, donc notamment dans les cuisines collectives. Donc, c'est des anciens pots de yaourt, de sauce tomate. Ce genre de choses. Mais après, ça peut être imaginé en beaucoup plus grande échelle. On a un grand tonneau au fond qu'on imaginait transformer justement en bokashi pour pouvoir composter des déchets alimentaires pardon, de plusieurs structures, par exemple.
Donc, on peut fabriquer au Low-Tech Lab des objets bien utiles et dont le fonctionnement est éprouvé. Ou bien, Martin Amis et ses complices fabriquent des outils plus pédagogiques.
Ça, c'est un vélo, c'est un prototype de vélo qui génère de l'électricité. Donc, on a la version pour adultes qui est là derrière. Mais là, l'idée, c'est que c'est un prototype qu'on est en train de préparer, puisqu'on va faire des ateliers de fabrication avec l'école Montessori de Brest, avec les élèves de 6-12 ans. Et l'idée, en fait, c'est de sensibiliser à ce que c'est que l'énergie, ce que c'est qu'un watt, un watt-heure, etc. Et bien, rien de tel que de pédaler pour se rendre compte de ce que c'est que la puissance, quoi. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un vélo sur lequel on a mis en contact une roue de roller ou une roue qu'on peut récupérer à droite à gauche, qui fait le lien avec un petit moteur électrique. Et en fait, quand l'enfant va pédaler, ça va faire tourner le moteur électrique qui va faire office du coup de génératrice, en fait. Donc ça va produire de l'électricité au niveau des bornes plus et moins du moteur. Et après, l'idée, c'est de relier différents appareils pour s'assurer que, voilà, que ça génère bien de l'électricité. Et puis l'intérêt, c'est qu'avec des systèmes, par exemple, d'interrupteurs, d'ampoules ou autres, on pourrait, par exemple, imaginer brancher une ampoule qui consomme 10 ou 20 watts. Ou nous, on va le faire avec des ventilateurs parce qu'on trouvait rigolo le côté circulation, enfin de faire des petits courants d'air. Et au moment en fait, où les appareils électriques vont se mettre en route, en fait, ça va créer une résistance mécanique au niveau du vélo. Et du coup, l'enfant va pouvoir se rendre compte en pédalant ce que c'est que la puissance instantanée, quoi.
Parce que là, faut pas rêver. Ce type d'appareil, en fait, c'est de la démonstration justement. C'est pas avec ça qu'on va s'éclairer à l'avenir.
Alors c'est ça. Ça, c'est plus des outils de sensibilisation. Au même titre qu'on peut en, qu'il y avait un vélo, par exemple, au village Climat Déclic à l'automne dernier. Ce qui est plus intéressant d'un point de vue économie d'énergie, on va déjà avoir le déshydrateur ou le four solaire, ce genre de choses. Après, il y a des low-tech, nous, qu'on ne maîtrise pas encore ici, mais on pourrait imaginer des chauffe-eau solaires, des capteurs à air chaud qu'on puisse mettre sur des murs ou ce genre de choses. Ouais.
Et là, vous n'avez peut-être pas tout sorti, tout ce que vous avez fait, fabriqué ici au Low-Tech Lab de Brest, mais vous en avez peut-être d'autres comme ça dont vous pouvez me parler en général, non ?
C'est principalement quand même ce qu'on a fait. L'idée, c'est qu'on fait en fait des prototypes pour ensuite pouvoir animer des ateliers. Mmh. Donc là, on a des lampes solaires qui ont été fabriquées par les enfants aussi.
Avec un petit panneau, c'est ça ?
Ouais, il y a un petit panneau photovoltaïque. Une petite carte électronique qui permet de convertir la tension générée par le panneau en une tension qui peut être utilisée après par une petite ampoule LED. Et puis en plus, on a rajouté une pile au lithium de récupération pour pouvoir stocker l'énergie, quoi. Pile au lithium qu'on peut retrouver dans des batteries d'ordinateur ou...
Vous faites ça avec une boîte à goûter, non ? Ou une boîte
ouais,
à
bah là, c'est des, tupperwares qu'on a récupérés, ouais. Et après, c'est les enfants qu'on fait, donc les finitions ne sont pas forcément très très propres, mais l'intérêt, c'est qu'ils apprennent à se servir des outils, apprendre eux-mêmes à bricoler et puis faire des systèmes qui peuvent être utiles. Donc là, l'étape d'après, par exemple, pour ces lampes solaires, ça va être de les installer à l'école pour qu'en hiver, le matin et le soir, on ait un petit peu de lumière quand on va chercher ou déposer les enfants à l'école, quoi. Nous, on est principalement quand même sur des low-tech qui s'adressent au grand public, en fait. Et on est plus pour l'instant dans de la sensibilisation. Parce qu'il faut nous-mêmes qu'on s'approprie les compétences sur les sujets énergie, eau, gestion des déchets, etc. quoi.
Est-ce que vous pensez que avec la montée du prix des énergies, la low-tech puisse être considérée par la population plus comme quelque chose d'anecdotique ou comme un loisir, mais puisse effectivement faire masse et permettre aux gens, avec des moyens qui diminuent, de pouvoir continuer effectivement ou à se chauffer ou à pouvoir faire cuire ses aliments à moindre coût.
Ouais, complètement. Par rapport à l'actualité du moment, la low-tech, elle a toute sa place. En fait, on va identifier deux choses au niveau d'une approche low-tech, en fait. Il y a l'approche où on se structure au niveau de publics divers et variés autour d'un projet. Donc nous, ça va être le projet associatif, par exemple, pour déjà apprendre entre nous, etc., à bricoler. Maintenant, il y a des entreprises, des professionnels qui créent des structures et des activités autour de la question de la low-tech.
Oui, donc, par exemple.
Il y a l'atelier Troyol qui a été créé cette année, qui est une coopérative qui vise à répondre spécifiquement aux besoins des professionnels autour de la question de la low-tech. Donc ça va être par exemple une industrie qui fait du travail sur la question de... ou qui utilise par exemple de l'eau pour tester des machines ou autre, ils peuvent faire appel à la coopérative pour trouver des solutions techniques pour économiser l'eau ou arrêter d'utiliser de l'eau potable par exemple. Après, sur tout ce qui est énergie, en Normandie, il y a un boulanger solaire et depuis maintenant 2 mois... Oui, c'est néo-locaux, c'est ça. Depuis maintenant 2 mois, il y a une boulangerie solaire à l'Anil-Dut qui a été ouverte. Et ils essaient de voir ce que ça peut donner dans un contexte finistérien. Quand on regarde, par exemple, le retour d'expérience de néo-locaux en Normandie, 50% de son pain à l'année, il est cuit avec l'énergie du soleil. Donc, sur les contextes énergétiques, les problématiques énergétiques qu'on peut avoir en ce moment, ça répond clairement à un besoin que peuvent avoir des professionnels, quoi. Et après, typiquement, les coursiers brestois avec qui on partage le local, eux, ils s'appuient sur des vélos et des vélos électriques pour faire de la livraison. Du coup, c'est sans émission. Le rapport consommation d'énergie par rapport à la réponse du besoin qui est de livrer des choses, que ce soit des professionnels ou des habitants de Brest, le gain, il est incroyable. Tant en réduction d'émissions de CO2 qu'en énergie consommée pour déplacer les marchandises, quoi. Et après, l'idée, c'est comment monter en puissance pour pouvoir accompagner les particuliers à justement faire des économies d'énergie chez eux. Là, il y a un travail de fond à faire. Et maintenant, les low-tech, elles sont en phase en fait, de passer d'une phase, qui peuvent avoir un aspect bricolage à un aspect beaucoup plus propres qui s'installent facilement. Des chauffe-eau solaires qui peuvent s'installer sur les toits des maisons ou les marmites norvégiennes, ça s'intègre dans une cuisine de façon très, très propre et c'est très facile à utiliser.
On avait quand même l'impression que les low-tech labs, quand ils sont nés en tout cas, enfin je ne sais pas si ça avait 10, 20 ans peut-être qu'on parle de low-tech labs, mais c'était surtout des geeks, des ingénieurs entre eux. Enfin, est-ce que ça s'ouvre aussi quand même? Est-ce qu'on peut faire de la low-tech qui soit pas du bricolage justement, mais autre chose? Enfin, je ne sais pas.
Il y a plusieurs choses autour de cette question-là. Ça peut être des profils type ingénieur qui montent les structures, parce qu'en fait, il y a une sorte de dissonance cognitive entre l'activité qu'on fait. Je suis moi-même ingénieur, en fait. Donc, entre l'activité qu'on va faire dans notre quotidien et puis les besoins réels de la société, quoi.
La dissonance cognitive, c'est un écart entre ce qu'on vit, ce qu'on fait, et ce qu'on souhaiterait vivre ou faire pour être en accord avec ses valeurs.
Et en fait, ça permet justement de commencer à imaginer autrement, imaginer autre chose. Et puis, l'intérêt... des compétences que peuvent avoir les ingénieurs, c'est que justement, ils vont concevoir des systèmes qui répondent à des besoins que peuvent réellement avoir les gens. Maintenant, ils ne vont pas tout faire tout seuls. Et c'est là où on a besoin de s'appuyer sur des compétences diverses et variées à tout niveau de la société, quoi.
Vous avez, par exemple, des chimistes, low-tech. Enfin, vous pourriez en avoir plus, ou des biologistes, enfin, j'en sais rien.
Après, ça dépend un peu des structures locales. Et puis, on va dire que ça va dépendre des porteurs de projets, de ce sur quoi on démarre le projet. Mais par exemple, du côté de Strasbourg, c'est l'atelier circulaire, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, du côté de Strasbourg, ils travaillent sur les matériaux, par exemple. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on fait des dredges de bière, qu'est-ce qu'on fait du marc de café pour faire des matériaux qui peuvent être utilisés après pour fabriquer des objets, quoi. Donc là, c'est encore d'autres types de compétences. Et puis, y a la question inhérente à l'ergonomie, le design des objets pour donner envie aux gens de se les approprier. Maintenant, la marmite norvégienne, c'est encore un bon exemple parce qu'on peut, par exemple, soit l'intégrer directement dans un tiroir d'une cuisine, soit on peut en faire un pouf, soit on peut en faire... Enfin, après, il faut laisser place un peu à son imagination. Puis, par exemple, le déshydrateur solaire qu'on a ici, c'est un produit qui est vraiment fini, qui a toute sa place, quoi.
Le fonctionnement de l'association ici, c'est comment ça marche?
Alors aujourd'hui, nous, l'association, on est tous bénévoles. On a une permanence tous les mercredis soirs de 18h jusqu'à 21h. Et l'adhésion aujourd'hui, c'est 15€, quoi. Et avec 15€, du coup, on a accès au local quand on veut. Et puis, on a les permanences une fois de plus tous les mercredis. Et puis, on se réunit aussi une fois par mois pour sous forme d'un apéritif, réunion mensuelle pour faire un peu le point d'où on en est, des projets en cours. Et après, l'autre action de... Enfin, on n'a pas vraiment parlé des actions de l'association, mais en fait, l'association locale à Brest, elle travaille sur trois points. Le premier, c'est de fédérer une communauté locale sur la question de la low-tech. La deuxième, c'est de diffuser le savoir low-tech et la connaissance low-tech sur le territoire. Et puis le troisième, justement, c'est d'avoir un environnement propice. Donc là, c'est un atelier pour pouvoir apprendre et fabriquer soi-même des low-tech, ouais.
Ça veut dire que vous proposerez aussi des stages éventuellement
C'est ça. Donc l'idée, c'est qu'à plus long terme, à plus long terme. En fait, en 2024, notre objectif, c'est de créer un programme de stages et de formation. Ça va s'adresser tant aux plus jeunes, par exemple pendant les vacances scolaires, qu'aux adultes pour fabriquer des outils qui peuvent être utilisés dans leur quotidien. Et ça va être mis en place en 2024. Bon, on est une dizaine au total à faire des animations et puis on est une trentaine au niveau de l'association sinon.
Eh oui, c'est ce que vous disiez, d'accord. Et vous exportez éventuellement, ouais, si vous en avez un petit peu parlé, mais vous exportez aussi le Tech Lab dans des écoles, enfin dans des structures, c'est ça?
C'est ça. Donc une des missions de l'association, c'est d'avoir un atelier et d'organiser nous-mêmes des animations, des stages de formation ou d'avoir un environnement de travail pour les adhérents de l'association. Mais l'idée, c'est qu'on fait aussi, et ce depuis la création de l'association Le Tech Lab Brest, hein, des interventions, que ce soit dans des écoles... Ou pour du grand public ou ce genre de choses, ouais. Donc on a fait une intervention, donc c'est pas sur Brest, c'est à Saint-Malo dans un lycée justement c'était un projet pédagogique sur un an avec des lycéens pour apprendre justement à fabriquer des vélos qui génèrent de l'électricité. L'idée, c'est que ce projet qu'on a fait du côté de Saint-Malo avec une équipe pédagogique qui était très motivée et puis des élèves aussi qui étaient très motivés, est-ce que ça peut pas intéresser des structures, des établissements sur Brest ou les environs? Parce qu'en fait, nous, on a maintenant un certain nombre de compétences pour fabriquer des objets ou sensibiliser en tout cas les élèves en leur faisant faire les objets, quoi. qui a une dimension quand même qui est vachement intéressante. Et rien que le retour d'expérience sur Saint-Malo, c'était très intéressant parce que on est intervenu 5 fois dans l'année scolaire. Donc après, les élèves bricolaient tout au long de l'année. Et en fait, les premières interventions, il fallait vraiment qu'on soit présent autour des élèves parce qu'il manquait peut-être un peu de confiance en eux sur l'utilisation des outils, etc. Et en fin d'année scolaire, ils étaient complètement autonomes, quoi. À utiliser de l'électroportatif, ils mettaient les équipements de sécurité et ils ont même customisé les vélos, donc ils sont allés plus loin que le projet initial, quoi. Donc ça, c'est vachement intéressant et ça, c'est des projets qu'on peut reproduire, nous, sur place, sans problème. Et puis, on travaille avec les établissements de l'enseignement supérieur. Donc, depuis 2 ans, on travaille avec l'ENIM, notamment, où on fait 10 d'ateliers sur l'intersemestre avec les étudiants de première année de cycle ingénieur pour les sensibiliser à la démarche et puis commencer à avoir un esprit un peu critique sur la technologie et la complexité des systèmes techniques ou technologiques qu'on a aujourd'hui. Ouais.
Ce reportage a été réalisé par Véronique Museau avec la collaboration de Céline Marzin. Merci à Martin Amis du Low-Tech Lab de Brest. Il est doté d'un site internet, d'une page Facebook et sur le site internet lowtechlab.org. Vous trouverez beaucoup d'informations et notamment un wiki pour les tutoriels et les plans des différents objets low-tech.